Qu'est-ce que cela signifie être juif aujourd'hui en France après le procès Mera, après également différents tweets antisémites? On s'est demandé qui pouvait illustrer la condition des juifs de France, qui pouvait donner un point de vue sensible et subjectif du moment particulier que nous traversons. On a pensé à vous, Johann Sfar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dessinateur, vous publiez le tome 7 du chat du rabbin, La tour de Babel Oued, un chat qui n'est pas très optimiste. Justement, hier Gérard Filoche a été exclu du Parti Socialiste pour un tweet. Alors ce tweet, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il représentait trois personnes connues pour leur judaïsme, à savoir un Rothschild, Jacob Rothschild, Jacques Attali et également Patrick Drahi. Et puis il y avait le président Emmanuel Macron avec un brassard, avec un sigle de l'art dessus et une légende qui expliquait que les Français allaient réaliser que cet homme n'était pas un homme bien. Votre sentiment, Johann Sfar?
Très honnêtement, l'affaire Filoche, je m'en fiche un peu. Je pense que c'est un vieux monsieur, il a dû retweeter n'importe quoi. Maintenant, il y a une paresse intellectuelle globale qui fait que ces vieilles recettes marchent encore. Ces appels à la haine, ces caricatures, ces choses-là, on a l'impression que l'histoire patine et c'est pas très enthousiasmant.
L'histoire patine, l'histoire également est en train d'évoluer. Elle évolue notamment parce que un certain nombre de juifs aujourd'hui ont peur, peur de vivre en France, peur de vivre où ils vivent. Notre reporter Maïwenn Guizhou est allé à leur rencontre dans la banlieue parisienne. Écoutez ce que l'un d'entre eux dit.
Il y a des clichés, les juifs sont riches. Si je prends par exemple la communauté d'Épinay, j'ai regardé les chiffres par exemple qui ont été donnés par l'INSEE. C'est une des villes avec, enfin, qui déjà vit en dessous des revenus moyens au niveau national. Et clairement, les gens qui sont là-bas, non, ils sont pas riches. Il y a même des gens à qui que la communauté aide pour subvenir à leurs besoins. Pour moi, voilà, tous ces clichés-là, c'est aussi une forme d'antisémitisme.
Voilà les clichés. Vous souffrez de l'antisémitisme, Johann Sfar?
Non, moi pas du tout. Moi, je suis un homme très heureux. Je suis très heureux d'être en France. J'ai toujours refusé de m'exprimer sur l'antisémitisme parce que je pense que ça attise les passions et la parano. Simplement, aujourd'hui, il y a un danger réel, souvent pour des familles pauvres, souvent pour des familles dans des quartiers difficiles, qui savent plus où scolariser leurs enfants, parce que le nombre de directeurs d'établissements qui disent « il vaudrait mieux que vous le mettez ailleurs », c'est une défaite terrible. Le nombre de juifs, pas religieux du tout, qui se retrouvent à mettre leurs gamins dans des écoles religieuses, parce que dans les écoles laïques, ça se passe très mal, et dans les écoles religieuses, on leur dit « souvenez-vous de l'affaire Mera, attention, on va mettre des militaires devant la porte ». J'ai pas vu un seul juif, depuis un ou deux ans, qui se demande pas si son avenir est en France ou pas. Ça c'est une défaite tellement abyssale que je sais pas combien il y a de juifs en France, on n'a pas le droit de les compter, il y en a 400 000, j'en sais rien.
Entre 400 et 600 000.
Ceux qui sont pour la plupart pas religieux, donc ça se voit pas, on va dire c'est une maladie qu'on voit pas de loin, le judaïsme, qu'autant d'entre eux s'imaginent que l'histoire juive en France est terminée, ou se voit sur le départ, ou se voit comme quantité négligeable, il me semble qu'il y a un cataclysme mental dans cette histoire-là.
Un cataclysme dont on a choisi effectivement de parler, Johann Sfar, avec aussi une question malgré tout qu'on peut se poser. Pour vous, qu'est-ce qu'être juif? Comment définiriez-vous votre judaïsme?
Alors le mien, il est avant tout culturel. Moi, je pense que la religion n'est qu'un aspect de la culture juive. C'est un mode de pensée qui rêve d'universalisme sans jamais l'atteindre, un peu pareil que la culture française qui rêve d'être universelle. Et c'est une pensée, à mes yeux, très métisse, très ouverte, très cosmopolite, puisque le judaïsme s'est construit dans les pays d'accueil où étaient les juifs, donc il est matiné de protestantisme quand on vient d'Europe de l'Est et d'arabité quand on vient du Sud, ou d'Espagne si on veut. Donc souvent, dans le fanatisme religieux, la haine du juif trouve sa place au milieu de la haine des homosexuels, d'une envie de rabaisser la femme, de tout ça, parce que l'idée juive, depuis toujours, depuis qu'Abraham a cassé les idoles de son père, c'est de ramener la religion vers la vie quotidienne, vers des choses, j'ose pas dire vivre ensemble parce qu'on me traite de bonne conscience de gauche. J'ai des motifs d'espoir, j'ai de grands motifs d'espoir, mais le quotidien est parfois assez déprimant.
Quels sont vos grands motifs d'espoir?
Alors, je vais le dire à l'ambiance anti-juive qu'on va trouver est facile à retourner, me semble-t-il, si on se rencontre. Parce que très souvent, quand on croise des gamins qui ont des opinions comme ça, au bout de deux secondes, ils disent « Ah non, mais pas toi. Pas toi, les autres juifs en question qui n'ont jamais rencontré. »
Bon, mais on l'a dit à d'autres époques, pas toi.
Oui. Oui.
Et ça s'est mal terminé.
C'est pas mal terminé. Il y a eu des vagues avec des millions de morts et après tout va mieux. Est-ce que je vais dire qu'il y a une solution à la haine des hommes contre les hommes? Il y en a pas. Moi j'adore l'idée d'un judaïsme de diaspora, c'est-à-dire qui n'a pas son pays, qui fait ce qu'il peut et qui est en danger parce que ça mène à l'éveil intellectuel. Maintenant, parfois, c'est pas très confortable.
Votre chat, en tout cas, le chat du rabbin, il n'est pas très optimiste pour ce 7e album, Johann Sfar. Je ne sais pas si vous voyez des raisons d'espérer, mais lui, il est plutôt... il broie du noir. Et d'ailleurs, votre rabbin et votre imam qui parlent ensemble, eh bien, ils disent que finalement, la religion, c'est une bonne chose tant qu'elle ne permet pas de répéter aux uns et aux autres qu'on est tous frères, parce que là, ça sera l'enfer.
Le rabbin et l'imam essayent de faire prier tout le monde dans le même temple, parce que la mosquée est inondée, ils veulent tous aller dans la synagogue. Le problème, c'est que les fidèles ne veulent pas. Et effectivement, grâce au chat du rabbin, depuis 17-18 ans, je rencontre beaucoup de prêtres, et je suis surpris de voir à quel point ils sont ouverts, sympa, et à quel point on s'entend bien. Et souvent, c'est la base qui suit pas. Souvent, il y a des croyants qui aiment bien qu'on se déteste, qui aiment bien... faut dire qu'on trouve dans le corpus religieux mille raisons de se détester si on les cherche. Et effectivement, moi, tant que le religieux a la main, je suis pas très optimiste.
Mais pourtant, il y a également dans les religions, dans les différentes religions, dans la manière dont le chat du rabbin d'ailleurs perçoit les choses, puisque c'est le 7e album, également des raisons d'espérer.
Bien sûr, la religion, quand elle est intime, quand elle relève du travail sur soi, elle est formidable. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'aujourd'hui, la religion, c'est de l'identitaire. Ça va être des vêtements, ça va être des interdits alimentaires, ça va être des manières de refabriquer des équipes de foot ou des clans. Donc, pour se cimenter, j'avais entendu ce mot terrible lors d'un colloque sur l'engagement violent islamiste, un type avait dit évidemment qu'ils promeuvent l'antisémitisme parce que c'est un thème rassembleur. C'est terrible de voir que parmi les différents activistes, les différentes personnes qui sont prêtes à passer à l'action violente, la haine du juif ou la haine de l'israélien qui se mélange dans ce verbiage, c'est fédérateur.
Mais quand vous êtes né à Nice il y a une quarantaine d'années, Johann Sfar, est-ce que la situation entre les différentes religions, si même d'ailleurs on avait une mémoire des religions, est-ce que cette religion était aussi tendue?
C'était très différent. J'ai grandi sur le port de Nice, il y avait beaucoup de chrétiens, beaucoup de juifs, beaucoup d'arabes. On disait pas notre religion, ça pouvait arriver mais c'était pas important. Le racisme qu'on rencontrait, parfois il y avait des skinheads, alors on se bagarrait, mais enfin c'était assez joyeux parce que je dois dire que les skinheads en question, on prenait parfois des verres avec eux après, il faut être honnête, on était dans les mêmes clubs de sport. Aujourd'hui on est face à quelque chose de différent, on est face à un retour du religieux massif et face parfois à un microclimat qu'on peut même pas nommer. Parfois c'est toute une classe, parfois c'est... Il est là le problème, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un sur qui il faut taper pour arrêter la haine. On voit qu'il y a un climat. Je suis bien malin celui qui sait en sortir.
Mais justement, avant d'essayer d'en sortir, il faudrait essayer de voir comment on en est arrivé là. Vous vous souvenez de certaines étapes, par exemple la manière dont la question israélienne s'est invitée dans le débat français, puisqu'on a parfois presque l'impression qu'il s'agit d'un sujet de politique intérieure.
Ça on me demande beaucoup quand je voyage à l'étranger, ce qui se passe entre la France et les Juifs. Je ne crois pas un instant que la France soit un pays antisémite. En revanche, l'intellectuel français a une passion pour les Juifs qui m'inquiète un peu. Moi, j'ai toujours milité pour le non-événement juif. Je souhaite juste qu'on nous traite comme n'importe quels imbéciles. Or, il y a un prurite là-dessus. Il y a une excitation là-dessus. Je me souviens, j'étais enfant, du moment où le journal Le Monde a cessé quand on tuait les athlètes de Munich. On a cessé de parler de terrorisme et on a parlé de combattants. Ça, c'était un vrai changement. Quand le terrorisme intervenait et qu'on a parlé de combattants, ça fait bien longtemps, ça fait près de 40 ans, mais ça a été un changement important et je crois qu'il faut se méfier du romantisme quand on parle de terrorisme.
Et pour la relation à Israël, qu'est-ce que l'on peut en faire? On a parlé de ces 4 à 600 000 juifs français, on sait qu'il y en a un peu plus de 5 000 qui émigrent en Israël, il y a eu une augmentation de ce chiffre, ça n'est pas une augmentation énorme, c'est une augmentation sensible. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, moi, je valorise le Maghreb. J'essaye de créer un merveilleux et un imaginaire sur le Maghreb, parce que beaucoup d'entre nous, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, on a une histoire avec le Maghreb, on a un imaginaire avec le Maghreb. Il me semble que Israël et la Palestine, ce sont des territoires sur lesquels on greffe énormément de fantasmes, dans un camp comme dans l'autre, et on s'en sert pour séparer les gens. Souvent, Israël et la Palestine, ils ont bon dos dans le débat quotidien. Moi, ce que je suggère, c'est que les gens aillent là-bas pour voir. Et ils verront sans doute des tas de choses qui leur déplairont fortement, parce que c'est un pays hautement critiquable, mais qui n'a pas suscité une... Si vous voulez, le changement, moi je l'ai vécu quand j'étais enfant, avec la, je crois, avec la rue Copernic. À un moment, on a décidé que tous les juifs du monde entier étaient des cibles quand on voulait lutter contre la politique israélienne. C'est tout de même un petit peu étrange. C'est comme si j'avais quelque chose à dire contre le comportement des Émirats et que je considérais que chaque musulman est une cible. C'est terrible. Parce que même les juifs d'extrême gauche, hostiles à Israël, antisionistes, deviennent des cibles puisqu'ils sont censés être les représentants de quelque chose. Or, je regrette, un juif qui n'est pas parti en Israël, c'est un juif qui a fait le choix de la diaspora. C'est un choix parfois pas évident.
Mais justement, votre chat du rabbin, il est le dépositaire d'une mémoire judéo-arabe. Une mémoire qui aujourd'hui est une mémoire blessée, puisque il faut pas se raconter d'histoire. Lorsqu'on va en Algérie, il reste encore un tout petit nombre de juifs, mais enfin ces pays n'acceptent pas forcément bien l'idée juive. D'ailleurs, il est distribué, votre chat du rabbin, dans les pays maghrébins.
C'est pas facile. J'ai énormément de lecteurs dans le monde arabe. Qu'ils lisent en français, et il y a une vraie consigne de la part des, est-ce que c'est les États, les éditeurs, j'en sais rien, de ne pas traduire en arabe un livre dans lequel il y a rabbin dans le titre. On a fait une édition arabe du chat du rabbin, malheureusement elle a été distribuée qu'en France pour des cours d'apprenants d'arabe, mais j'ai énormément d'espoir, parce que je me sens profondément maghrébin dans ma culture, dans ce que je raconte, et je mesure à quel point les différences entre nous sont superficielles et sont agités, oui, par des méchants, par des gens qui veulent la guerre. Ça ne résiste jamais à un déjeuner, ça ne résiste jamais à un thé pris ensemble. Il me semble qu'on a tout intérêt à continuer contre vents et marées, à dire qu'il faut se rencontrer, qu'il faut se parler, et que le Maghreb est un bon souvenir dans le sens où c'était un lieu de métissage, de mélange. Le discours que raconte le gouvernement algérien depuis des années sur l'espèce d'homogénéité algérienne, c'est un énorme mensonge. L'Algérie n'est pas plus arabe que française, c'est une terre berbère, c'est une terre mélangée, c'est une terre où on discute, et je crois que la pensée juive, dans son côté paradoxal et dans son côté un peu maso, c'est toujours très bien senti au contact des autres. Moi j'ai l'impression que il va y avoir un rayon de soleil. C'est pas possible autrement.
Bon, vous êtes en tout cas dans l'espoir, mais cet espoir, malgré tout, il s'est fracassé sur un certain nombre d'événements. Peut-être que l'attentat perpétré par Mohamed Merah, en ce qu'il était le premier à viser des enfants juifs parce que juifs sur le territoire français depuis la Seconde Guerre mondiale, il a marqué une date importante. Vous l'avez vécu comment, Johann Sfar?
Alors, le hasard a voulu que je sois à Toulouse quand c'est arrivé, parce que j'étais parti à Toulouse pour écrire tranquille. Je m'étais dit, c'est une ville où il se passe jamais rien. Quand j'étais plus petit, il y a eu à Carpentras une tombe juive profanée. Le lendemain, il y avait 1 million de Français dans la rue. Quand Mohamed Merah est allé dans une école juive tuer des gamins à bout touchant, il y a eu beaucoup moins de réactions, il y a eu beaucoup moins de monde. Les gens étaient un petit peu gênés parce que c'était une école religieuse. Et on a peu montré les victimes. Je ne parle pas des cadavres, je parle du visage des victimes. Et là, j'ai eu une pensée très très embêtante lors du procès d'Abdelkader Merah. C'est qu'on a vu arriver toute sa famille. Et là, on a vu arriver des monstres. On a vu arriver des gens qui s'entretenaient dans un climat de haine. Déjà, entre eux, il y avait des bagarres au couteau entre les frères, les machins. Mais qui étaient cimentés par la haine du juif. C'est un truc de dingue. Et là, la pensée qui est venue, mais à tous les gens qui écoutaient la radio, c'est toute cette famille-là, on devrait la foutre en prison. Mais en même temps, eux, ils n'ont pas commis de crime. Eux, ils se sont juste entretenus dans un fantasme de haine qui leur a fait du bien, qui les a rassurés, parce que la haine, ça nourrit. Et j'ai pas la réponse de comment on peut casser ça. Malheureusement, c'est très répandu. Il faut pas confondre l'immense majorité des citoyens français qui vivent leur religion comme de la manière la plus paisible possible et une infime minorité qui est dans cette folie. Mais cette minorité existe et malheureusement, elle est entretenue par des guides religieux, par des chefs religieux. Il faut le cursus religieux comprend cette haine de l'autre et la met en avant. Je sais pas comment on lutte contre ça.
Lorsqu'il y a eu l'hypercachère, lorsque l'attentat de Charlie Hebdo a également touché à la fois certains de vos amis, des dessinateurs, et puis aussi une certaine manière de ne pas considérer les religions comme étant intouchables. Là aussi, qu'est-ce que vous vous êtes dit, Johann Sfar?
C'est terrible parce qu'on voit bien que ça vient ensemble. S'en prendre aux journalistes, s'en prendre aux homosexuels, s'en prendre aux femmes, s'en prendre aux juifs, ça raconte un truc. Je suis embêté, j'aimerais bien dire des choses optimistes. J'aimerais bien dire des
Depuis
choses...
Depuis le début, vous voulez dire des choses optimistes. On vous en sait gré, d'ailleurs, parce qu'il est tôt et qu'il faut être optimiste. Mais malgré tout, il n'y a pas forcément de raison d'être optimiste. On est allé promener notre micro à Épinay sur scène. On n'a pas entendu beaucoup de paroles optimistes. Et votre chat du rabbin, d'ailleurs, je le répète, n'est pas très optimiste.
Il me semble qu'il faut trouver un moyen de faire baisser la pression identitaire. C'est la seule réponse. Je ne sais pas comment on peut faire. C'est vrai que cette histoire de Charlie Hebdo, le fait qu'aujourd'hui encore ce soit au centre de l'actualité, qu'on en soit encore à se demander, non pas si on a le droit de caricaturer Mahomet, mais si on a le droit de caricaturer Edwy Plenel, on est dans un recul qui est absolument terrible. Pour moi, le rôle de Charlie Hebdo, c'est de dessiner n'importe quoi comme ça leur vient, mais ça ne devrait pas être le centre du débat français sur le sacré. J'espère qu'on a d'autres lieux pour parler du sacré, avec peut-être plus de nuances, plus de partage, mais c'est le fait que le grand axe intellectuel français soit entre Mediapart et Charlie Hebdo, ça dit une grande défaite intellectuelle. Je regrette qu'on en soit là.
On en reparle aux environs de 8h20, Johann Sfar, Le chat du rabbin, le tome 7 vient de paraître, La tour de Babel-Oued. Vous serez rejoint par un chercheur, Samuel Guilles-Mellac.